Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, y a-t-il une préférence française pour le chômage ? Carton plein pour la réforme de l'assurance chômage. Elle ne satisfait ni les syndicats de salariés, ni les organisations patronales. Les premiers reproches au gouvernement, le durcissement des règles d'indemnisation. Il faudra avoir travaillé plus longtemps sur une période plus courte pour être éligible. Les secondes s'opposent au principe du bonus-malus sur les contrats courts, une forme, selon elles, de taxation du travail. Du côté de l'exécutif, on met en avant les économies qui vont en découler, 3,4 milliards d'euros sur les trois prochaines années. Mais c'est surtout l'objectif d'une baisse conséquente du chômage qui est avancé pour justifier cette réforme. Le système d'indemnisation actuel ne serait plus adapté à la réalité du marché du travail. Il aurait même un effet délétère sur le niveau du chômage. On baisse, certes, à 8,7% désormais, mais bien au-dessus du niveau de nos principaux partenaires. Alors en son temps, en 1994, Denis Oliven, futur patron de la FNAC et d'Europe 1, avait théorisé ce constat dans un article pour la revue Le Débat, en parlant de préférence française pour le chômage. Un constat que certains reprennent aujourd'hui à leur compte, constatant le décalage entre un marché du travail en pleine mutation et un système de protection qui bénéficie avant tout aux salariés en CDI. Alors, y a-t-il une préférence française pour le chômage ? C'est le thème de notre discussion de ce soir, discussion pluridisciplinaire comme vous allez pouvoir le constater, en compagnie de Claire Vivez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, chercheuse au Centre d'études de l'emploi et du travail et membre du LIS. Le LIS, c'est le laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique. Pour discuter avec vous, un juriste, Pascal Lokiek, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vous présidez l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale et je renvoie à votre dernier ouvrage, publié l'an dernier chez Flammarion avec Dominique Méda et Eric Heyer, Une autre voie est possible. Et puis notre troisième invité, Philippe Tibi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur de finance à l'école polytechnique, président fondateur de Pergamon Campus, je ne sais jamais s'il faut dire Pergamon, Pergamon.
Pergamon, c'est très bien.
C'est une école d'économie pour dirigeants et futurs dirigeants. Et je renvoie à ce qui me semble-t-il est votre dernier ouvrage en date. C'était en 2016 chez Erol. Plus de marché pour plus d'État. On va voir justement si vous considérez que l'État joue son rôle actuellement dans cette façon d'aborder la question du chômage et de l'emploi. Mais avant de s'interroger sur le fond de la réforme, alors je précise, l'idée de l'émission, c'est pas de passer 40 minutes sur les détails de cette réforme, mais de voir en quoi il y a ou pas une inadaptation entre les textes, entre, on va dire, ce qui relève des règles et puis ce que serait la réalité du marché du travail. Mais avant de s'interroger sur le fond, il faut peut-être poser la question de la nécessité. Est-ce qu'une réforme de l'assurance chômage était nécessaire, de votre point de vue, Claire Vivez ?
Alors, elle était, à mon sens, nécessaire, mais pas du tout dans le sens dans lequel elle a été réalisée, puisque ce qui est complètement sorti des radars dans cette réforme, c'est le fait que un chômeur inscrit à Pôle emploi sur deux aujourd'hui n'est pas indemnisé par l'assurance chômage. Et ce que fait cette réforme, ce n'est pas du tout de traiter cette question-là, mais bien au contraire, ça va augmenter le nombre de demandeurs d'emploi non indemnisés. Donc nécessité, oui, mais pas dans ce sens.
Donc s'il avait fallu réformer, il aurait fallu aller vers davantage d'universalité du système pour que tous ceux qui sont sans emploi puissent bénéficier d'indemnisation ?
Exactement, et c'est l'universalité dans un sens autre que ce qu'on a entendu dans la bouche du président Macron, par exemple, qui parlait d'universalité en allant vers d'autres démissionnaires que ceux qui sont couverts aujourd'hui et les indépendants, mais en faisant complètement l'impasse sur les gens qui relèvent du salariat mais qui ne sont pas indemnisés.
Si je pose la question, c'est parce que j'ai l'impression que dans un certain nombre de cas, quand des réformes sont menées, Philippe Tibi, on ne se pose pas toujours la question de savoir si une réforme en tant que telle est nécessaire. Il y a aussi l'idée qu'il faut réformer à tout prix sans forcément se poser la question de la pertinence des réformes.
Je crois que ce qui a été jugé nécessaire, enfin, c'est une réforme du gouvernement, c'est une réforme qui figurait dans la plateforme électorale du président Macron, et c'est une réforme qui est complémentaire avec les autres réformes, dont celle du marché du travail. Donc, ils sont des réformes où je pense qu'il y a un maître mot qui est la mobilité sociale. Donc, on peut adhérer ou pas adhérer, mais ce qui fait sens et ce qui fait corps dans le programme qui a été présenté, c'était de sortir d'une société figé en statut et qui en fait ignorait ce qu'on appelait depuis d'ailleurs cette note de Denis Oliven les outsiders, et qui fait que il y avait un consensus entre notamment des corps intermédiaires pour ne pas s'occuper et ne pas traiter ces gens-là. Donc c'est une réforme qui a plusieurs volets. Il y a une volet qui banalise le CDI, en tout cas le rend plus prévisible. Une réforme qui, tout en ayant des objectifs budgétaires, mais qui vise fondamentalement, à mon avis, à mieux organiser la permittence, en tout cas à arrêter avec cette connivence qui fait que le salarié et son employeur ont intérêt à mener des contrats courts, et également à favoriser la mobilité, puisque on sait que en matière de recherche d'emploi, la mobilité est un phénomène fondamental. Donc, c'est évident qu'il y a besoin de cette réforme. Et je crois que ce qui a été fait ici, c'est une réforme qui ne plaît à personne qui ne plaît pas au corps intermédiaire, parce que, de mon point de vue, la situation actuelle, dont je pense que personne ne peut être satisfait, est une situation qui acte l'échec des corps intermédiaires, c'est-à-dire ici du paritarisme.
Alors on reviendra justement sur cette question de la place des corps intermédiaires qui est importante quand on pense aux questions du travail. Pascal Lockec, pour terminer ce premier tour de table, est-ce que vous diriez vous aussi nécessaire, et est-ce que vous diriez, comme vient de le dire Philippe Tibi, qu'il y a une cohérence avec les autres réformes qui ont été précédemment menées par ce gouvernement? On pense évidemment à la réforme du droit du travail.
Alors nécessaire, sans doute, certainement pas dans le sens qui a été suivi, et précisément la cohérence, pour moi, n'y est pas. C'est-à-dire que Emmanuel Macron avait annoncé qu'il adopterait une politique de flexi-sécurité. C'est-à-dire que d'abord, il allait réformer le droit du travail par les ordonnances avec plus de flexibilité, et que dans un deuxième temps viendrait le volet sécurité. Or, ce qu'on voit très bien dans cette réforme de l'assurance chômage, c'est que le volet sécurité n'y est pas. N'y est pas puisque on va réduire les droits des chômeurs. Dans une politique de flexi-sécurité, l'idée c'est que on peut certes perdre plus facilement son emploi, donc on facilite le licenciement, ce qui a été fait avec le fameux barème sur lequel on reviendra peut-être. Et en échange de ça, si vous perdez votre emploi, vous avez davantage de protection, de qui en quelque sorte il est moins grave de perdre son emploi. On voit bien avec ce qui est fait, que ce soit pour les cadres ou pour tous les chômeurs avec la réduction de la durée du nombre de mois requis pour avoir l'indemnisation, on voit bien que ça n'est pas le cas. Alors c'est pas une surprise pour moi. Le modèle de flexi-sécurité à la danoise est extrêmement coûteux. Le Danemark a longtemps été le champion du monde de la pression fiscale. Donc évidemment, dans une logique de réduction des déficits, ça ne pouvait pas marcher. Et donc voilà. Donc nous avons une réforme qui vise exclusivement à réduire les déficits et qui finalement déçoit énormément parce que au lieu d'avoir flexibilité et sécurité, on a flexibilité deux fois.
Claire Vivès, on a plus de flexibilité que de sécurité à travers cette réforme, à travers cette série de réformes.
Tout à fait. Alors moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Pascal Lockec, et je voudrais quand même préciser par rapport à ce que vous avez dit sur la soi-disant connivence entre les employeurs et les salariés, pour dire que à mon avis ça ne correspond pas du tout à la réalité du vécu du travail et du chômage aujourd'hui. Quand vous dites que...
Alors quand vous dites vous vous adressez à Philippe Tibi.
À Philippe Tibi, pardon. Quand vous dites que les outsiders seraient mieux protégés par cette réforme, je ne comprends pas de quoi vous parlez, parce que dans la réforme, ceux qui sont visés, ce sont précisément ceux qui cumulent emploi et chômage. Et aujourd'hui, ces salariés-là n'ont pas le cumul de salaires et d'allocations ne conduit pas à des revenus mirobolants. Ça, c'est complètement déconnecté de la réalité. Donc, leur faire porter à eux le poids de la flexibilité, c'est une erreur. Et surtout que la contrepartie qui était censée être le bonus-malus n'est pas du tout au niveau de ce qu'il aurait fallu et pour financer l'assurance chômage et pour avoir un effet désincitatif.
Je rappelle juste au passage le bonus-malus qui revient à une taxation d'un recours excessif au contrat court dans un nombre de secteurs limités, pas dans l'ensemble des secteurs, hein, puisque c'est ça qui ressort aussi de cette réforme.
Pour les entreprises de plus de 11 salariés.
Voilà, ce qui limite un peu. Bah, Philippe Tibi ?
Non, mais je pense que la situation actuelle est une situation qui est, en ce qui concerne les contrats courts, qui concerne l'énorme majorité des contrats qui sont ouverts chaque année. C'est une situation dont s'accommodent les employeurs et les employés. Et c'est une situation qui précarise et qui, dont on ne peut pas considérer qu'elle est satisfaisante. Donc, je crois que l'objectif, c'est que le pouvoir de négociation des employés, des gens qui sont sous contrat de travail, soit augmenté parce qu'ils seront amenés à refuser ce qu'on leur propose aujourd'hui, qui peut correspondre à un style de vie qui leur convient ou qui leur est imposé, mais qui les éloigne du droit à la formation, qui les éloigne précisément de la sécurité. Donc le but, l'objectif, ça n'est pas de réduire les droits, c'est d'obtenir que la relation entre employeurs et employés soit une relation plus stable, précisément.
Oui, mais aujourd'hui, si ce pouvoir de négociation par rapport à ces personnes qui ont des contrats courts est relativement faible, en quoi est-ce que les partenaires sociaux, et en particulier les syndicats de salariés, en seraient la cause, en seraient responsables? Moi, en tout cas,
je pense que, encore une fois, je pense que la situation actuelle, c'est une situation de négociation entre des syndicats patronaux et des syndicats d'employés qui aboutit à ce résultat. Et je pense que les salariés précaires, les chômeurs, ne sont pas représentés par les syndicats, tout simplement parce qu'ils ne sont pas cotisants, parce qu'ils ne font pas partie de ces syndicats. Donc l'angle mort de la société française, c'est que vous avez une majorité de gens qui sont en situation de protection. Une situation pour laquelle ils ont des représentants qui sont des représentants efficaces. Et que les gens, et qui prétendent par ailleurs représenter l'intérêt général. Alors qu'en fait, ils représentent l'intérêt particulier de leur mandant, ce qui me paraît parfaitement légitime par ailleurs. C'est-à-dire que le MEDEF représente des entreprises, des intérêts des entreprises, ça ne m'étonne pas que les syndicats de salariés représentent les salariés, leurs cotisants, ça ne me choque pas. Simplement, ça ne coïncide pas toujours avec l'intérêt général. Donc, l'objectif, et on verra, je pense qu'il faudra évaluer évidemment, mais l'objectif du gouvernement, c'est de rompre avec cette logique et de dire qu'il y a des situations qui sont des situations dont je ne dis pas qu'elle soit confortable pour les salariés, mais dont ils s'accommodent en contrepartie d'un style de vie qui peut permettre de travailler de façon moins de jours par mois que des gens en CDI. Et bien cette situation, elle n'est pas acceptable et elle coûte extrêmement cher à un système dont je rappelle qu'il est à l'origine un système assurantiel. C'est-à-dire que ce sont des travailleurs qui payent pour d'autres travailleurs, les entreprises qui payent pour la protection sociale des salariés.
Alors le fait est que ce reproche, il est quand même régulièrement et depuis quelque temps adressé, justement, notamment aux partenaires sociaux, mais qui part de ce constat d'un monde du travail, Pascal Lauquiez, qui serait à deux vitesses, avec d'un côté ceux qui sont salariés, qui sont en CDI, qui bénéficient d'un certain nombre de protections, et puis tous les autres, alors qu'ils sont loin d'être majoritaires aujourd'hui, même si les entrées dans le monde du travail se font de plus en plus à travers des contrats courts, des contrats précaires, de l'intérim, et qui auraient quand même besoin justement d'avoir un système qui soit peut-être plus égalitaire entre toutes ces personnes qui sont sur le marché du travail.
Alors effectivement, on touche ici à ce qui est peut-être la question la plus fondamentale aujourd'hui, c'est qui protège-t-on ? Alors, il y a deux questions. D'abord, est-ce qu'on protège simplement les salariés en CDI, c'est-à-dire le modèle classique ? Effectivement, non, il est hors de question de ne protéger que les salariés en CDI. Les salariés en CDD doivent être aussi protégés. Je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que les syndicats ne s'intéressent pas au CDD. Le fait est qu'effectivement, lorsque vous êtes en CDD, lorsque vous êtes une journée par semaine dans l'entreprise, vous avez peut-être moins de proportion à être délégué syndical. Ça, c'est certain. Mais en tout cas, le problème, ça n'est pas celui-là.
Vous êtes moins facilement repéré par les organisations syndicales.
Oui.
Par nature, puisque vous êtes de passage.
Absolument. Absolument. Alors, sur les contrats courts, moi, l'idée qu'on fasse une surtaxe, un bonus-manus, je suis tout à fait favorable. Alors, après, dans cette réforme, il y a un double problème, c'est le taux de surcotisation qui est beaucoup trop faible. Et ensuite, l'approche sectorielle qui a été adoptée, puisqu'on ne retient que 7 secteurs. Et deux des secteurs, on va dire, les plus impactés par les CDD courts, c'est-à-dire la santé et le BTP, ne sont pas touchés. Mais alors, donc ça, ce sont les premiers. C'est CDI ou CDD. Et après, il y a une grande question, c'est que fait-on des travailleurs indépendants? Et ça rejoint ce que disait Claire Vivès tout à l'heure. Il y a l'idée qui ne me semble pas être une mauvaise idée du tout, que aujourd'hui, au vu des transformations du travail, on ne peut plus s'intéresser qu'aux salariés. et qu'il faut aussi s'intéresser aux indépendants. Ça fait toujours partie de cette logique de flexicurité dont on parlait il y a quelques minutes. Alors là aussi, grosse déception, puisque sur la réforme de l'assurance chômage, certes, les indépendants se voient ouvrir l'assurance chômage, mais c'est extrêmement limité, puisque c'est 800 euros pendant 6 mois, et ça n'est ouvert qu'à ceux qui sont en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire. Donc, ok, on affiche cette volonté d'ouvrir, mais c'est extrêmement modeste. On peut prendre un deuxième exemple, qui est aussi d'actualité, c'est les travailleurs des plateformes. Puisque là encore, l'idée c'est comment protège-t-on ces chauffeurs de Uber, par exemple, qui sont juridiquement des indépendants, mais qui sont économiquement dépendants vis-à-vis de la plateforme. Et là aussi, c'est l'idée de protéger en dehors du salariat. Et ce qui est fait en ce moment devant le Parlement est là encore extrêmement décevant, puisque au lieu de développer un véritable statut pour les travailleurs des plateformes indépendants, on crée une charte qui est élaborée unilatéralement par les plateformes, il n'y a pas d'accord collectif, et cette charte, elle ne contient aucun droit obligatoire, elle contient des thèmes que les chartes peuvent aborder avec un contenu complètement libre. Donc la problématique, elle est là, mais les résultats sont extrêmement décevants, c'est tout le sens malheureusement des réformes actuelles.
Claire Lives, cette réforme, elle ne prend pas suffisamment en charge et en compte ces nouveaux travailleurs qui répondent à des problématiques qui sont différentes de celles du salariat et de ces personnes qui sont en CDI. Qui est, je le rappelle, hein, la forme la plus répandue aujourd'hui dans le monde du travail. Je crois que c'est assez largement d'ailleurs, hein, je ne sais plus quels sont les chiffres, mais enfin c'est dans des proportions très, très importantes, même si je crois que ça baisse quand même régulièrement.
Pour ce qui est de la protection des indépendants, effectivement, les règles qui ont été proposées dans les dernières annonces sont extrêmement restrictives. Mais je voudrais quand même revenir sur l'idée du chômage, enfin du pouvoir de négociation et du rôle des organisations syndicales, puisque les deux questions sont liées. Historiquement, le rôle de l'assurance chômage, c'est bien de fournir une protection pour donner ce pouvoir de négociation en faisant en sorte que, parce que les personnes au chômage ont un revenu pendant qu'elles sont au chômage, elles sont pas obligées de prendre n'importe quoi. Ce que fait, et donc c'est en ça que les intérêts des précaires, qu'on peut appeler outsiders, même si la distinction est problématique, les intérêts des précaires et des personnes en CDI s'alignent, c'est que ni les précaires n'ont intérêt à prendre n'importe quoi, ni les CDI n'ont intérêt à ce qu'il y ait des gens qui fassent une sorte de dumping qui prennent tous les emplois qui viennent. Donc, comment est-ce qu'on peut nous dire que...
Ça plaide plutôt alors, pour le maintien d'un marché du travail qui serait toujours scindé en deux, non?
Non, je pense pas que ce soit le cas, puisque cette protection, donc, ce sur quoi je veux insister, c'est sur le fait que cette réforme ne donne pas de pouvoir de négociation aux précaires, elle conduit au contraire à ce qu'ils prennent tous les emplois qui viennent. Et c'est en ça que l'accusation faite aux organisations syndicales me semble absolument pas fondée. C'est-à-dire que ça fait depuis 2003 que le niveau de cotisation était stable et que la question des recettes de l'assurance chômage était complètement sortie du champ du négociable. C'est-à-dire que il y a eu tout un tas de conventions d'assurance chômage, mais on n'a jamais négocié sur les recettes, c'est-à-dire les cotisations. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu cette négociation? Parce que, certes, la négociation, c'est entre les organisations syndicales et les organisations patronales, mais ça s'inscrit dans un rapport de force général. On peut pas juste dire les organisations syndicales n'ont pas négocié pour les précaires parce que ça ne les intéressait pas. C'est bien parce que il suffit pas d'avoir des revendications pour qu'elles soient acceptées. Et si on s'intéresse à la période récente, les organisations syndicales de salariés savaient pertinemment que l'État, qui joue un rôle dans ce face-à-face, l'État n'allait absolument pas soutenir la question d'une augmentation des ressources de l'assurance chômage. Donc, je veux insister là-dessus parce que...
Ça dépend du gouvernement qui est en place. Il peut y avoir un gouvernement qui... S'il y a une forme d'étatisation, en tout cas, de ces questions et de l'assurance chômage, vous pouvez très bien avoir un gouvernement qui va plutôt être favorable peut-être justement à l'augmentation des ressources. Parce que quand c'est entre les partenaires sociaux, entre le patronat et les syndicats de salariés, c'est pas forcément quelque chose qui est beaucoup plus simple, si.
Il y a quand même un consensus assez ancien, enfin politique, sur les derniers gouvernements, sur l'idée que il ne faudrait pas toucher au coût du travail, ce qui fait donc que ça sort du champ du négociable.
Sur la question, alors pour poursuivre un petit peu la discussion entre vous trois, je ne sais pas si vous voulez revenir sur cette question du pouvoir de négociation et de la place des partenaires sociaux, mais peut-être aussi pour aller un petit peu plus loin. Moi, une des questions que j'ai envie de vous poser, c'est sur le lien qui est fait à travers ces réformes. Alors c'est le cas sur l'assurance chômage, mais c'était aussi le cas des dernières lois travail, de faire un lien en fait entre ce qu'est le cadre qui est proposé et le niveau de l'emploi ou le niveau du chômage. Est-ce que ça, déjà, c'est un lien, Philippe Thiby, qui vous paraît pertinent? C'est-à-dire, selon les modalités qui sont décidées pour protéger les chômeurs, selon l'évolution du droit du travail, ça va favoriser ou ça va défavoriser l'emploi? C'est une connexion qui est faite, semble-t-il, pour chacune des réformes. Et j'ai l'impression, ça fait quelques années que j'anime des émissions, notamment sur cette question du travail, qu'on n'a toujours pas réussi à trancher, du point de vue de la science économique, le fait qu'il y ait un lien direct ou pas.
Non, je pense qu'il y a des avis divergents parmi les économistes. Il y a des économistes qui disent que, de toute façon, le vrai paramètre du chômage, c'est l'activité économique. Et que, de toute façon, le cadre, les institutions sont un facteur d'ordre 2. Et que le vrai problème, c'est d'avoir des politiques de stimulation de l'économie qui feront ainsi réduire le chômage.
Et donc qui allégeront la charge des indemnités chômage.
Et qui allégeront la charge des indemnités de chômage. Bon. Et il y a une autre école, bon, qui est bien représentée par Jean Tirole, mais pas seulement, Pierre Camus, enfin, il y a beaucoup d'économistes du travail qui indiquent que, bien sûr que le niveau général d'activité a un impact sur le travail, mais que les institutions et les incitations ont un rôle. Et donc, là, il y a des travaux qui ont été menés, des travaux comparatifs, notamment quand on regarde la situation de l'Allemagne. Je ne veux pas dire que l'Allemagne est un modèle, mais on a vu que les incitations ont changé le taux de chômage et le comportement des actifs. Donc, le but de tout gouvernement et le but des économistes, c'est de proposer des solutions qui, évidemment, permettront de non seulement de réduire le niveau du chômage, mais aussi... parce que le niveau du chômage n'est pas le seul indicateur, c'est aussi la qualité des jobs. Et dans la qualité des emplois, il y a la question de la précarité qui, effectivement, est une question majeure. Dans l'OCDE, aujourd'hui, 30% des emplois sont des emplois précaires. Ce sont des emplois qui sont non seulement les CDD, mais des emplois comme au Royaume-Uni, c'est où les gens viennent quand on les appelle. C'était les mini-jobs en Allemagne. Donc ça, c'est à mon avis le vrai sujet. Donc le problème des économistes, la question centrale pour les économistes, c'est de trouver des solutions et des incitations et un système institutionnel qui permet de non seulement d'augmenter le nombre d'emplois, mais d'augmenter leur qualité. Et pour les politiques, le problème, c'est de se faire réélire. Donc, pour être réélu, il vaut mieux que la situation économique et sociale soit de bonne qualité. Donc, je pense que le lien, il est fait. Simplement, je pense que si on veut résumer les choses, il y a deux écoles qui, à mon avis, se complètent. La première qui dit il faut qu'il y ait de l'activité économique. Et évidemment, parce qu'en dernière analyse, c'est le niveau de l'activité économique, la croissance de la productivité qui assure l'emploi. Mais ça ne veut pas dire que les institutions ne jouent aucun rôle.
Du point de vue qui est le vôtre, c'est-à-dire spécialiste du droit du travail, Pascal Loquet, est-ce que vous faites facilement ce lien, justement, ou pas?
Non, je ne le fais pas du tout. Et malheureusement, c'est un lien assez caricatural qui est fait depuis des années et qui est l'un des grands responsables des évolutions contemporaines du droit du travail. Ce lien entre le droit du travail et le chômage n'a jamais été établi. Et si on fait quelques comparaisons, notamment avec l'Italie, on voit très bien qu'il est quasiment impossible à prouver. Le fameux barème des indemnités prud'homales, qui est complètement dans cette logique, parce que le barème, c'est l'idée que on va permettre aux entreprises de plus facilement licencier, parce que en sachant qu'elles peuvent plus facilement licencier, elles vont plus facilement embaucher. Donc on est en plein dans cette logique. Ça a été inspiré par le Jobs Act italien. Effectivement, les Italiens ont plafonné les indemnités de licenciement comme on a fait en France. Et le chômage a décru. Sauf que parallèlement, ils ont adopté une politique d'exonération de charges patronales assez considérable, si bien que quand vous parlez aux Italiens, il est impossible de savoir si c'est la réforme du droit du licenciement ou l'exonération des charges patronales qui a fait baisser le chômage. C'est la même chose en Espagne.
Oui, mais Philippe Tibi a évoqué le cas de l'Allemagne. Alors aussi, ce sont des lois dont on a souvent parlé, les lois Hartz, qui avaient considérablement durci les conditions d'indemnisation des chômeurs, avec obligation de prendre des emplois. Le chômage a quand même beaucoup baissé par la suite. Alors certes, avec à la clé une précarisation du marché du travail avec les fameux mini jobs, mais en tout cas ça avait bien eu un effet direct sur les chiffres. Les chiffres certes ne font pas tout, mais comme le rappelait là aussi Philippe Tibi, politiquement c'est quelque chose pour lequel les élus sont très sensibles.
Pour l'Allemagne, on n'est pas certain, parce que les Allemands ont aussi eu recours au chômage partiel de manière massive. Donc il n'est pas certain que ce soit la réforme Hartz qui ait fait baisser le chômage, et les résultats, notamment des mini-jobs, sont assez inquiétants sur la précarité. Et pour poursuivre sur la France, il y a encore deux autres arguments. Il faut quand même rappeler que depuis 20 ans, on a énormément flexibilité le marché du travail. On a créé la rupture conventionnelle, plus de 3 millions aujourd'hui. On a flexibilisé le temps de travail. Aucun impact sur le chômage. Lorsqu'on interroge les chefs d'entreprise, il y a eu un sondage, le code du travail ne vient qu'en quatrième position. Donc on est dans un phénomène, malheureusement, de sorte de bouc émissaire, dans un premier temps sur le droit du travail, et aujourd'hui sur les chômeurs. Alors juste pour rebondir, et là je partage votre point de vue sur la question de la qualité de l'emploi. Ça, c'est un point clé. C'est ce qu'on a essayé d'ailleurs de développer dans notre livre avec Dominique Méda et Eric Heyer. Bien loin de cette idée qu'il faut réduire les protections, au contraire, il faut les renforcer. Pourquoi ? Parce que si la France veut gagner des parts de marché, c'est certainement pas sur la compétitivité coût, mais c'est sur la compétitivité hors coût. Ce qui implique des salariés qui soient innovants, qui soient efficaces, qui soient productifs. Et pour ça, on n'a pas besoin d'un climat, on va dire, stressant, inquiétant. On a besoin de salariés qui sont protégés. Donc je crois qu'on fait vraiment fausse route.
Sur la question des liens qui sont régulièrement faits pour expliquer notamment un haut niveau de chômage, Claire Vivès, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans cette réforme de l'assurance chômage, il y a l'idée que les niveaux d'indemnisation et plus largement de protection avec les aides sociales favoriserait le maintien de certaines personnes au chômage. Il ferait l'arbitrage en se disant, c'est plus intéressant pour moi de ne pas avoir d'emploi, de ne pas travailler, de toucher des indemnités, plutôt que de revenir sur un marché du travail où je vais peut-être être en contrat précaire, en CDD, et où finalement je gagnerai moins en travaillant. Est-ce que là aussi c'est un lien qui vous paraît pertinent aujourd'hui, et est-ce que c'est quelque chose, on va dire, qui fonde les politiques là aussi de l'emploi et d'indemnisation depuis pas seulement peut-être ce gouvernement, mais depuis déjà quelques années?
Alors, pour ça, il faut quand même revenir sur quelques chiffres pour vous répondre, en vous disant que l'indemnisation moyenne, donc là je parle des chômeurs qui sont indemnisés, l'indemnisation médiane, c'est-à-dire il y en a autant qui ont plus que qui ont moins, c'est 950 € par mois. Donc on est loin de chiffres mirobolants.
Médiane, ça veut dire qu'il y a la moitié des chômeurs qui
indemnisés,
touchent moins
indemnisés.
De 950 €. Ouais.
Voilà, sachant que les chômeurs indemnisés, c'est grosso modo 6 chômeurs sur 10, qu'il y a 13% des chômeurs qui sont au RSA, il y en a à peu près 7% qui sont à l'ASS et 18% qui n'ont aucun revenu. Donc les chômeurs indemnisés font plutôt partie de ceux qui ont les revenus les plus hauts. Et donc il y en a 50% de ces chômeurs indemnisés qui ont moins de 850 € par mois. Donc cette pseudo-générosité, elle passe pas l'épreuve de la réalité, en fait.
Oui, mais prenons juste un exemple, si vous voulez bien, Claire Vivès. Prenons l'exemple des cadres, pardonnez-moi, mais la question des cadres, qui fait partie justement de cette réforme, avec l'idée qu'il y a une dégressivité pour les indemnités de ceux qui touchent plus de, je crois que c'est 4 500 € bruts par mois. Alors, il faut rappeler, les indemnités chômage, elles sont plafonnées, 6 200 € net par mois. Et il y a une étude qui a été publiée tout récemment, une étude de Pôle emploi, me semble-t-il, selon laquelle plus un chômeur est indemnisé, alors là on ne parle pas de ceux qui touchent peu, mais de ceux qui touchent beaucoup, a priori, même si c'est bien sûr en proportion de ce qu'ils ont cotisé, mais plus un chômeur est indemnisé, plus il va rester au chômage, parce qu'il va avoir quand même un niveau d'indemnisation qui va le maintenir plus longtemps dans le non-emploi. Est-ce que ce qui est valable pour ceux qui touchent peu est aussi valable pour ceux qui touchent davantage, Claire Viès?
Je veux d'abord revenir sur cette étude et l'interprétation qui en a été faite. Parce que ce que, donc, effectivement, cette étude est sortie, sauf que ce que cette étude ne dit pas, c'est qu'elle regarde que le niveau d'indemnisation. Et pas du tout, par exemple, et pas du tout l'âge. L'âge. Et on sait très bien que ceux qui gagnent le plus à l'assurance chômage sont ceux qui sont le plus indemnisés, parce que donc ils ont le salaire le plus élevé, sont les personnes les plus âgées, plus de 50 ans. Et on sait aussi que quand on a plus de 50 ans, on a plus de mal à retrouver un emploi. Donc ce lien entre montant de l'indemnisation et durée au chômage, il est extrêmement contesté. Ensuite, la remarque sur les cadres, elle revient de manière récurrente dans le débat, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ça correspond à très peu de personnes, c'est-à-dire que 5% des demandeurs d'emploi indemnisés ont une indemnisation supérieure à 1900 euros. Donc, il faut quand même repréciser de quoi on parle. Et la question qui, à mon avis, est complètement absente dans le débat, c'est la question de la pauvreté, au contraire, des chômeurs. Pour rebondir sur le titre de l'émission, sur la préférence française pour le chômage, moi je parlerai plutôt de préférence française pour l'emploi, et donc on est dans des politiques d'emploi qui sont orientées autour de l'emploi à tout prix, donc il faut tout faire pour l'emploi, et l'idée d'attribuer des droits aux précaires est complètement hors champ, c'est-à-dire que les précaires sont tenus pour responsables de leur précarité, c'est eux qui, comme on est dans un système qui est de plus en plus contributif et très contributif, ils ont des petits emplois, des petits droits, et voilà, ils sont pauvres. Et l'idée d'attribuer des droits aux précaires en déconnectant la question de l'emploi et de leurs droits, en disant mais ils sont précaires, mais c'est une sorte de double peine en fait, ça c'est hors, ça n'apparaît pas dans le débat, c'est inaudible.
Ah, je trouve ça intéressant le renversement de la proposition, plutôt que de parler de préférence française pour le chômage, de préférence peut-être d'obsession alors plutôt française pour l'emploi, quel que soit l'emploi, vous en pensez quoi? Et Pascal Lokiek et Philippe Tibi, Pascal Lokiek.
Effectivement, on a parfois tendance à être obsédé par l'emploi plus que par le travail, au sens où, évidemment, il n'y a rien de plus important que de procurer un emploi aux personnes, mais finalement, la qualité de l'emploi, le travail lui-même, finalement, est quelque part oublié. On peut pas proposer n'importe quoi comme type d'emploi. Donc effectivement, il faut aussi se concentrer sur la qualité de l'emploi. Donc
quand vous dites n'importe quoi, ça porte sur quoi? C'est-à-dire n'importe quoi en termes de je sais pas moi, de créneaux horaires, n'importe quoi.
Bah oui,
c'est sur la nature des emplois. Il y a des emplois qui seraient pas acceptables parce qu'ils seraient pas.
C'est toute la question. C'est toute la question. Est-ce que on peut considérer au nom de quelque chose d'aussi fondamental que l'emploi, que on peut accepter de créer n'importe quel type d'emploi? Et ben c'est le phénomène des zero hour contract au Royaume-Uni. Est-ce qu'on veut ça en France?
C'est-à-dire
ben vous avez aucune garantie pendant le mois d'avoir même une heure de travail. C'est ça qu'on veut. Est-ce que on veut créer des dérogations au SMIC comme c'est parfois proposé? Est-ce que on veut créer une flexibilité quasiment totale, vous savez, parce que ça permet de créer des emplois. Donc je crois que, évidemment, c'est essentiel de créer de l'emploi, mais il faut pas oublier, c'est pas n'importe quel type d'emploi. C'est une question effectivement extrêmement complexe, c'est très difficile de se positionner par rapport à ça, tellement il est difficile d'être au chômage, mais je crois qu'on peut pas... On ne peut pas l'éluder. Au nom de l'emploi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et je crois que votre expression, l'emploi à tout prix, c'est une expression qui est très juste.
Il y a un critère pour que l'emploi soit attractif. Ce n'est pas le seul, mais c'est le niveau de salaire. Si on reste sur l'idée, mais peut-être que ça n'est pas votre point de vue, Philippe Tibi, qu'il peut y avoir un lien entre, on va dire, donc, comme je le rappelle, un niveau d'indemnisation, aide sociale, et puis retour ou non à l'emploi. Est-ce qu'en se disant que si on augmentait les salaires, plutôt que de dire on va baisser les indemnisations, augmentons les salaires et du coup le travail deviendra plus attractif. Que ça peut être une bonne façon de penser les choses pour vous.
Je pense que dans une économie privée, le niveau des salaires, il est dicté par les marchés auxquels sont confrontées les entreprises. C'est-à-dire que le problème, à mon avis...
Et par le SMIC aussi, enfin par le salaire minimum légal.
Le SMIC, c'est un autre problème parce que c'est un des indicateurs, en tout cas une des décisions qui fausse le marché de l'emploi et qui constitue une trappe pour les non qualifiés pour parler comme des économistes, dont la productivité ne permet pas de les rémunérer à ce niveau-là. Donc il est clair qu'il y a un problème de salaire en France. La question posée par les manifestations des Gilets jaunes, etc., montre bien qu'il y a un problème de salaire ou de perception, pas seulement de perception, mais de fait qu'il y a un niveau d'exigence par rapport au salaire, et notamment au salaire net. Donc là, le problème d'une économie française, je pense, c'est un problème d'une économie qui n'est pas assez productive, parce qu'à la fin, les salaires, c'est un des prélèvements sur la valeur ajoutée, et qui n'est pas assez productive pour garantir, en tout cas à une proportion importante de la population, le niveau auquel ils pensent avoir droit. Donc c'est évident que s'il y avait des salaires qui étaient plus élevés, la question de l'arbitrage entre une période de chômage et un travail ne se poserait pas. Moi, je ne pense pas que ce soit une question centrale. Je ne pense pas qu'un chômeur est un coupable ou est une victime. Je pense que c'est quelqu'un qui ne participe pas à un marché du travail parce que ce marché est mal organisé, précisément. Donc, bien sûr que la question du niveau des salaires est important, et d'ailleurs l'Allemagne est un bon exemple parce que on nous explique que c'est un pays affreux où il y a des mini-jobs, précarité, etc. Mais le salaire médian allemand est supérieur au salaire médian français. Il y a eu la hausse du salaire médian depuis les réformes qui est beaucoup plus forte qu'en France. Donc, bien sûr que c'est un problème. Mais la question du niveau des salaires, elle est d'abord dictée par la productivité de l'économie et c'est un problème central en France, par les qualifications des travailleurs. Et on ne doit jamais oublier que les grands bataillons de ceux qui sont au chômage aujourd'hui, ce sont les gens qui ne sont pas qualifiés. Hein, si on a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande, c'est aussi parce qu'il y a un problème de qualification. C'est pas simplement... je ne veux pas qu'on pense que... mon interprétation, c'est qu'il y a des gens qui sont paresseux, qui n'ont pas envie de travailler. C'est absolument pas ce que je pense. Je dis simplement que les institutions ne sont pas incitatives et qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas suffisamment qualifiés pour obtenir des jobs qui sont offert sur le marché aujourd'hui.
Et de ce point de vue, et ce sera la conclusion, Claire Vivès, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites en termes d'accompagnement au retour vers l'emploi et notamment de formation professionnelle, alors qui ne concerne pas d'ailleurs que les gens qui n'ont plus d'emploi, hein, bien sûr, ce sont les gens qui sont en activité, mais il y a eu des réformes. Est-ce qu'on sait si elles portent leurs effets? C'était notamment sous le précédent quinquennat, me semble-t-il, sous François Hollande, qui avait eu cette vaste réforme de la formation professionnelle.
Alors, pour avoir les effets un peu des réformes sur de la formation professionnelle, il faut avoir quand même un peu de recul.
On en a pas assez aujourd'hui.
Je pense non. Et puis surtout, enfin, je pense qu'il faut pas non plus tout attendre des réformes de la formation professionnelle. Et il faut regarder quels sont les emplois créés et les emplois proposés. Or, ce qu'on a vu, c'est que dans les emplois créés, il y a beaucoup, majoritairement, des emplois courts pour les personnes non qualifiées, de mauvaise qualité. Donc ça, la formation professionnelle ne pourra pas régler ce problème-là.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Claire Vivès, Pascal Lokiek et Philippe Tibi. Philippe Tibi, à qui je décernerai sans doute d'ici la fin de la semaine le titre, vous serez peut-être plusieurs, mais de recordman de participation dans cette émission du Gramout, puisque depuis 8 ans, vous avez été là une fois par an. Voilà, merci pour votre fidélité. Et merci bien sûr Pascal Lokiek et Claire Vivès d'avoir participé à cette émission. C'était vu il y a quelques années déjà avec Pascal Lokiek. Voilà, cette émission, vous pourrez la réécouter sur notre site internet franceculture.fr, la page du Gramout. Téléchargez l'émission. Et également nous écrire. Merci à l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster. Émission réalisée par Peyre Legras avec à la prise de son Jean-Guilain Meige.